Chapitre 8. Mao de Bourgogne. Vers le milieu de la même nuit, deux cavaliers qui avaient fait partie de l'escorte d'Isabelle s'éloignèrent du château de Maubuisson. C'étaient Robert d'Artois et son serviteur Lormet, à la fois valet, confident, compagnon d'armes et de route, et fidèle exécuteur de toute besogne. Transfuge, pour quelque pendable raison, de la maison des comtes de Bourgogne, Lormet le Daulois, depuis que Robert se l'était attaché, n'avait pratiquement pas quitté ce dernier d'une minute ni d'une semelle. C'était merveille que de voir ce petit homme rond, râblé et déjà grisonnant, s'inquiéter en toute occasion de son jeune géant de maître, et le suivre pas à pas pour le seconder en toute entreprise, comme il l'avait fait récemment dans le guet-apens tendu aux frères Daunet. Le jour se levait lorsque les deux cavaliers arrivèrent aux portes de Paris. Ils mirent au pas leurs chevaux fumants, et Lormet bâilla une bonne dizaine de fois. À 50 ans passés, il résistait mieux qu'un jeune écuyer aux longues courses à cheval, mais le manque de sommeil l'accablait. Sur la place de Grève se faisait le rassemblement habituel des manœuvres en quête de travail. Contremaître des chantiers du roi et patron marinier circulaient entre les groupes pour embaucher aides, débardeurs et commissionnaires. Robert d'Artois traversa la place et s'engagea dans la rue Mauconseil, où habitait sa tante, Mao d'Artois. « Vois-tu, Lormet ?» dit le géant. « Je veux que cette chienne trop grasse entende son malheur de ma propre bouche. Voici un grand moment de plaisir en ma vie qui s'approche. Je veux voir la mauvaise gueule de ma tante lorsque je vais lui conter ce qui se passe à Maubuisson. Et je veux qu'elle vienne à Pontoise, et je veux qu'elle aide à sa ruine en allant braire devant le roi. Et je veux qu'elle en crève de dépit. » Lormet bâilla un bon coup.
« Elle crèvera, monseigneur, elle crèvera, soyez-en sûr. Vous faites bien tout ce qu'il faut pour cela, » dit-il.
Ils atteignaient l'imposant hôtel des comtes d'Artois. « N'est-ce point vilainie qu'elle soit à se goberger en ce gros logis que mon grand-père a fait bâtir ?» reprit Robert. « C'est moi qui devrais y vivre. »«
Vous y vivrez, monseigneur, vous y vivrez. »
Et je t'en ferai concierge, avec 100 livres par an.
Merci, monseigneur, répondit Lormet, comme s'il avait déjà la haute fonction et l'argent en poche.
D'Artois sauta au bas de son percheron, lança la bride à Lormet et saisit le heurtoir dont il frappa quelques coups à fendre la porte. Le battant clouté s'ouvrit, livrant passage à un gardien de belle taille, fort éveillé, et qui tenait à la main une masse grosse comme le bras.
Qui va là ?
Demanda le gardien, indigné d'un pareil vacarme. Mais Robert d'Artois le poussa de côté et pénétra dans l'hôtel. Une dizaine de valets et de servantes s'affairaient au nettoyage matinal des cours, des couloirs et des escaliers. Robert, bousculant tout le monde, gagna l'étage des appartements.
« Hola ! »
Un valet accourut, tout effaré, un seau à la main.
« Ma tante, Picard ! Il me faut voir ma tante dans l'instant !»
Picard, la tête plate et le cheveu rare, posa son seau et répondit
« Elle mange, monseigneur. Eh bien, je n'en suis point dérangé. Préviens-la de ma venue et fais vite !»
S'étant rapidement composé une mine de douleur et d'émotion, Robert d'Artois suivit le valet jusqu'à la chambre. Mao, comtesse d'Artois, père du royaume, ex-régente de Franche-Comté, était une puissante femme entre 40 et 45 ans, à la carcasse haute et solide, au flanc massif. Son visage, au masque engraissé, donnait une impression de force et de volonté. Elle avait le front large et bombé, le cheveu encore bien châtain, la lèvre un peu trop duvetée, la bouche rouge. Tout était grand chez cette femme, les traits, les membres, l'appétit, les colères, l'avidité à posséder, les ambitions, le goût du pouvoir. Avec l'énergie d'un homme de guerre et la ténacité d'un légiste, elle menait sa cour d'Arras comme elle avait mené sa cour de Dol, surveillant l'administration de ses territoires, exigeant l'obéissance de ses vassaux, ménageant la force d'autrui, mais frappant sans pitié l'ennemi découvert. 12 ans de lutte avec son neveu lui avaient appris à le bien connaître. Chaque fois qu'une difficulté survenait, chaque fois que les seigneurs d'Artois regimbaient, chaque fois qu'une ville protestait contre l'impôt, Mao ne tardait pas à déceler quelque action de Robert en sous-main.
« C'est un loup sauvage, un grand loup cruel et faux, » disait-elle en parlant de lui. Mais je suis plus solide de tête, et il finira par se briser lui-même à force d'en trop faire. »
Il se parlait à peine depuis de longs mois et ne se voyait que par obligation à la cour. Ce matin-là, assise devant une petite table dressée au pied de son lit, la comtesse Mao mâchait, tranche après tranche, un pâté de lièvre qui constituait le début de son menu de réveil. De même que Robert s'appliquait à feindre l'émoi et le chagrin, elle s'appliqua, quand elle le vit entrer, à feindre le naturel et l'indifférence.
« Hé, vous voilà bien vif à l'aurore, mon neveu. Vous arrivez comme la tempête. D'où vient cette hâte ?»«
Madame ma tante, » s'écria Robert, « tout est perdu !»
Sans changer d'attitude, Mao s'arrosa tranquillement le gosier d'une pleine timbale de vin d'arbois à la belle couleur du rubis et qu'elle préférait à tout autre.
« Qu'avez-vous perdu, Robert ? Un autre procès ? » demanda-t-elle.
« Ma tante, je vous jure que ce n'est point l'instant de nous larder de traits. Le malheur qui s'abat sur notre famille ne souffre pas qu'on plaisante.
« Quel malheur pour l'un de nous pourrait être un malheur pour l'autre ?»
dit Mao avec un calme cynisme.
« Ma tante, nous sommes dans la main du roi. »
Mao laissa paraître un peu d'inquiétude dans son regard. Elle se demandait quel piège on pouvait bien lui tendre et ce que signifiait tout ce préambule. D'un geste qui lui était familier, elle retroussa ses manches sur ses avant-bras fort gras et charnus. Puis elle plaqua la main sur la table et appela.
« Thierry !»«
Je ne saurais parler devant personne d'autre que vous, » s'écria Robert. « Ce que je viens vous apprendre touche à notre honneur. »«
Ah, tu peux tout dire devant mon chancelier. »
Elle se méfiait et voulait un témoin. Un court instant, ils se mesurèrent du regard, elle attentive, lui se délectant de la comédie qu'il jouait.
« Appelle donc ton monde, » pensait-il. « Appelle, et que chacun entende. »
C'était chose singulière que de voir s'observer, se jauger, s'affronter, ces deux êtres qui avaient tant de traits en commun, ces deux taureaux de même espèce et de même sang, qui se ressemblaient si fort et se détestaient si bien. La porte s'ouvrit, et Thierry d'Hirson parut. Chanoine capitulaire de la cathédrale d'Arras, chancelier de Mao, et un peu aussi son amant, ce petit homme bouffi, au visage rond, au nez pointu et blanc, ne manquait pas d'assurance ni d'autorité. Il salua Robert et lui dit, le regardant par-dessous les paupières, ce qui le forçait à tenir la tête très en arrière,
« C'est chose rare que votre visite, monseigneur.
Mon neveu a, paraît-il, un grave malheur à m'apprendre, » dit Mao.
« Hélas !» fit Robert en se laissant choir sur un siège.
Il prit un temps. Mao commençait à trahir quelque impatience.
Nous avons eu ensemble des différends, ma tante, reprit-il.
Bien plus, mon neveu, de très vilaines querelles et qui se sont terminées sans avantage pour vous.
Certes, certes, et Dieu m'est témoin que je vous ai souhaité tout le mal possible.
Il reprenait sa ruse favorite, la bonne grosse franchise avec l'aveu de ses mauvaises intentions pour dissimuler l'arme qu'il tenait en main.
Mais jamais je ne vous aurais souhaité cela, continua-t-il. Car vous me savez bon chevalier et ferme sur tout ce qui touche à l'honneur.
« Mais qu'est-ce à la fin ? Parle donc !» s'écria Mao.
« Vos filles, mes cousines, sont convaincues d'adultère et arrêtées sur l'ordre du roi, et Marguerite avec elles. »
Mao n'accusa pas tout de suite le coup. Elle n'y croyait pas.
« De qui tiens-tu cette fable ?
De moi-même, ma tante, et toute la cour à Maubuisson en cet autant. Cela s'est passé à la nuit tombée. »
Il prit plaisir à user les nerfs de Mao, ne lui livrant l'affaire que bribe après bribe, ou tout au moins ce qu'il voulait lui en laisser savoir.
« Ont-elles avoué ?»
demanda Thierry d'Hirson, toujours regardant par-dessous ses paupières.
« Je ne sais, » répondit Robert, « mais les jeunes Daunais sont en ce moment en train d'avouer pour elles entre les mains de votre ami Nogaret. »«
Mon ami Nogaret ?» répéta lentement Thierry d'Hirson. « Seraient-elles innocentes ? Avec lui, elles sortiront plus noires que la poix. »«
Ma tante, » reprit Robert, « j'ai fait en pleine nuit les 10 lieues de Pontoise à Paris pour venir vous avertir, car personne ne songeait à le faire. Croyez-vous encore que ce soit de mauvais sentiments qui m'amènent ?»
Mao observa son neveu un instant, et dans le drame où elle se trouvait, pensa « Peut-être est-il capable parfois d'un bon mouvement. Puis, d'un ton bourru, elle lui dit « Veux-tu manger ?» À ce seul mot, Robert comprit qu'elle était vraiment frappée. Il saisit sur la table un faisan froid qu'il rompit en deux avec les mains et dans lequel il commença de mordre. Soudain, il vit sa tante changer étrangement de couleur. D'abord, le haut de sa gorge, au-dessus de la robe bordée d'hermine, devint rouge écarlate, puis le cou, puis le bas du visage. On voyait le sang lui envahir la face, atteindre le front et le faire virer au cramoisi. La comtesse Mao porta la main à sa poitrine. « Nous y sommes, » pensa Robert. « Elle en crève. Elle va crever. » Il fut bientôt déçu, car la comtesse se dressa, balayant d'un grand geste du bras pâté de lièvre, timbales et plats d'argent, qui allèrent rouler au sol avec fracas.
« Les garces !» hurla-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour elle, après les mariages que je leur ai arrangés, se faire pincer comme des ribaudes, eh bien, qu'elles perdent tout, qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende !»
Le chanoine chancelier ne bougeait pas. Il avait l'habitude des fureurs de la comtesse.
« Voyez-vous, c'est tout juste ce que je pensais, ma tante, » dit Robert, la bouche pleine. « C'est bien mal vous remercier de toute votre peine. Il faut que j'aille à Pontoise sur l'heure, » dit Mao sans l'entendre. « Il faut que je les voie et leur souffle ce qu'elles doivent répondre. Je doute que vous y parveniez, ma tante. Elles sont au secret et nul ne... »«
Alors je parlerai au roi !»« Béatrice ! Béatrice !»
appela-t-elle. Une tenture se souleva. Une grande fille d'une vingtaine d'années, brune, la poitrine ronde et ferme, la hanche marquée, la jambe longue, entra sans se presser. Dès qu'il l'aperçut, Robert d'Artois se sentit de l'appétit pour elle.
« Béatrice, tu as tout entendu, n'est-ce pas ?» demanda Mao.
« Oui, madame, »
répondit la jeune fille d'une voix un peu narquoise, qui traînait sur la fin des mots.
« J'étais derrière la porte, comme de coutume. »
Cette curieuse lenteur qu'elle avait dans la voix, dans les gestes, elle l'avait aussi dans la manière de se déplacer et de regarder. Elle donnait une impression de mollesse onduleuse et d'anormale placidité. Mais l'ironie lui brillait aux yeux, entre de longs cils noirs. Le malheur des autres, leur lutte et leur drame, devaient sûrement la réjouir.
« C'est la nièce de Thierry, » dit Mao à Robert en la désignant. « J'en ai fait ma première demoiselle de parage. »
Béatrice d'Hirson dévisageait Robert d'Artois avec une sournoise impudeur. Elle était visiblement curieuse de connaître ce géant dont elle avait tant entendu parler, comme d'un être malfaisant.
« Béatrice, » reprit Mao, « fais atteler ma litière et sceller 6 chevaux. Nous partons pour Pontoise. »
Béatrice continuait de regarder Robert dans les yeux, et l'on eût pu croire qu'elle n'avait pas écouté. Il y avait chez cette belle fille quelque chose d'irritant et de trouble. Elle établissait avec les hommes, dès le premier abord, une relation d'immédiate complicité, comme si elle ne devait leur opposer aucune résistance. Mais en même temps, elle leur faisait se demander si elle était complètement stupide ou si elle se moquait paisiblement d'eux. « Belle gueuse, j'en ferai bien mon passe-temps d'un soir, » pensa Robert, tandis qu'elle sortait sans hâte. Du faisan, il ne restait qu'un os qu'il jeta dans le feu. À présent, Robert avait soif. Il prit sur une crédence l'aiguière dont Mao s'était servi et se versa une grande rasade dans la gorge. La comtesse marchait de long en large, retroussant ses manches.
« Je ne vous laisserai pas seule de ce jour, ma tante, » dit d'Artois. « Je vous accompagne. C'est un devoir de famille. »
Mao leva les yeux vers lui, encore un peu soupçonneuse. Puis elle se décida enfin à lui tendre les mains.
« Tu m'as été souvent à nuisance, Robert, et je gage que tu me le seras encore. » Mais aujourd'hui, je dois le reconnaître, tu te conduis comme un brave garçon. »